Chapitre 66. Les codes. Ce chant, cette psalmodie, ces voix rauques. Cactache 1173, 16 secondes avant la mort. Un potier d'âge moyen affirmait avoir eu des rêves étranges lors des tempêtes majeures les deux dernières années. Kaladin défit prudemment le bandage de Scar pour inspecter ses sutures et changer le pansement. La flèche avait touché le côté droit de la cheville, ricochant sur la bosse du péroné et raflant les muscles sur le côté du pied. « Vous avez eu beaucoup de chance, Scar, » dit Kaladin en plaçant un nouveau pansement. « Vous remarcherez sur celui-ci, à condition de ne pas appuyer dessus jusqu'à ce qu'il soit guéri. Nous allons demander à plusieurs des hommes de vous porter jusqu'au camp. » Derrière eux, dans le fracas et les hurlements, la bataille faisait rage. Les combats étaient lointains à présent, concentrés sur le bord est du plateau. Sur la droite de Kaladin, Teft buvait l'eau que Lopen lui versait dans la bouche. Le vieil homme se renfrogna et lui prit l'outre. « Je suis pas invalide, » aboyait-il. Il avait surmonté son vertige initial, bien qu'il soit encore faible. Kaladin se rassit, vidé. Quand la fulgiflamme se dissipait, elle le laissait toujours épuisé. Ça passerait sans doute rapidement. Il s'était écoulé plus d'une heure depuis l'attaque initiale. Il portait quelques sphères infusées de plus dans sa bourse. Il s'obligea à résister à l'impulsion d'absorber leur flamme. Il se leva, dans l'intention de rassembler des hommes pour transporter Scar et Teft du côté le plus éloigné du plateau, au cas où la bataille se déroulerait mal et qu'ils doivent se retirer, ce qui n'était guère probable. Les soldats Aleti avaient le dessus la dernière fois qu'il avait vérifié. Il balaya de nouveau le champ de bataille du regard. Ce qu'il vit le paralysa. Sadeas se retirait. Au départ, l'idée lui sembla tellement impossible qu'il ne put l'accepter. Sadeas était-il en train de faire reculer ses hommes pour qu'ils attaquent ailleurs? Mais non. L'arrière-garde avait déjà franchi les ponts. Et la bannière de Sadeas approchait. Le haut prince était-il blessé? Drei, Leighton, prenez Scar, Rock et Pete, prenez Teft. Filez le plus vite possible vers le côté ouest du plateau pour vous préparer à fuir. Les autres, mettez-vous en position de pont. Les hommes, qui venaient à peine de remarquer ce qui se passait, réagirent avec anxiété. Moash, suivez-moi, dit Kaladin en se précipitant vers leur pont. Moash s'exécuta aussitôt. « Que se passe-t-il ? » ?»« Sadeas se retire, » répondit Kaladin en regardant la vague des hommes en vert de Sadeas s'éloigner des lignes Parchendi comme de la cire en train de fondre. « Il n'a aucune raison de le faire. La bataille commence à peine, et son armée était en train de gagner. La seule chose qui me vienne à l'esprit, c'est que Sadeas doit être blessé. « Pourquoi est-ce qu'il retirerait toute l'armée pour ça ?» demanda Moash. « Vous ne croyez pas qu'il soit... » « Sa bannière flotte toujours, » répondit Kaladin. « Donc il n'est sans doute pas mort, à moins qu'il ne l'ait laissé flotter pour empêcher que les hommes ne paniquent. » Moash et lui atteignirent le côté du pont. Derrière eux, le reste de l'équipe se précipitait pour former une ligne. De l'autre côté du gouffre, Matal s'entretenait avec le commandant de l'arrière-garde. Après un échange rapide, Matal traversa et se mit à courir le long de la ligne d'équipe de pont, leur criant de se préparer à porter. Il lança un regard furtif à l'équipe de Kaladin, mais vit qu'elle était déjà prête et poursuivit donc son chemin. Sur la droite de Kaladin, sur le plateau adjacent, celui où Dalinar avait lancé son attaque, les 8 équipes de pont prêtées se retiraient du champ de bataille pour se diriger vers celui de Kaladin. Un officier Paliris que Kaladin ne reconnaissait pas leur donnait des ordres. Au-delà, plus loin au sud, une nouvelle force Parchendi était arrivée et déferlait sur la tour. Sadeas se dirigea à cheval vers le gouffre. La peinture de sa cuirasse d'éclat luisait au soleil. Elle ne comportait pas la moindre égratignure. En fait, sa garde d'honneur tout entière était indemne. Bien qu'il soit allé jusqu'à la tour, il s'était dégagé du combat pour revenir en arrière. Pourquoi donc? Puis Kaladin comprit. L'armée de Dalinar Colline, qui se battait à mi-hauteur de la pente du triangle, était à présent cernée. Cette nouvelle force Parchendi envahissait des positions que Sadeas avait tenues et qui devaient protéger la retraite de Dalinar. « Ils sont en train de l'abandonner ?» dit Kaladin. « C'était un piège, un coup monté. Sadeas abandonne le haut prince Colin et tous ses soldats pour les laisser mourir. » Kaladin contourna l'extrémité du pont, bousculant les soldats qui en descendaient. Moash le suivit en jurant. Kaladin ne savait pas très bien lui-même pourquoi il avançait en jouant des coudes vers le pont voisin, le pont 10, où Sadeas était en train de traverser. Peut-être avait-il besoin de s'assurer par lui-même que Sadeas n'était pas blessé. Peut-être était-il toujours hébété. C'était une trahison à grande échelle, assez terrible pour faire paraître presque insignifiante celle d'Amaram envers Kaladin. Sadeas faisait avancer son cheval au trot sur le pont. Les sabots résonnaient sur le bois. Il était accompagné de deux palziris en armure ordinaire, et tous trois tenaient leur casque sous le bras, comme s'ils étaient en parade. La garde d'honneur arrêta Kaladin d'un air hostile. Il était toujours assez proche pour voir que Sadeas était en réalité absolument indemne. Il était également assez proche pour étudier le visage fier de Sadeas lorsqu'il fit tourner son cheval pour regarder la tour. La deuxième armée Parchendi débordait celle de Colin et la prenait au piège. Et de toute manière, Colin n'avait pas de pont, il ne pouvait pas se retirer. « Je vous l'avais dit, mon vieil ami, » commenta Sadeas d'une voix basse mais distincte qui se mêlait aux hurlements lointains. « Je vous avais dit que votre honneur stupide vous ferait tuer un jour. » Il secoua la tête, puis il fit faire demi-tour à son cheval pour s'éloigner au trot du champ de bataille. Dalinar terrassa une paire de guerriers Parchendi. Il y en avait toujours de nouvelles pour les remplacer. Il serra la mâchoire et adopta la posture du vent pour défendre sa petite élévation à flanc de colline, comme un rocher sur lequel la vague Parchendi qui s'avançait allait devoir se briser. Sadeas avait soigneusement planifié sa retraite. Ses hommes n'avaient pas eu le moindre problème. Ils avaient reçu l'ordre de se battre de manière à pouvoir facilement se désengager du combat, et il avait une quarantaine de ponts par lesquels se retirer. Le tout lui avait permis d'abandonner Dalinar très vite, selon les critères du combat. Bien que celui-ci ait immédiatement ordonné à ses hommes de poursuivre, dans l'espoir de rattraper Sadeas tant que les ponts étaient encore installés, ils n'avaient pas été assez rapides. Les ponts de Sadeas se retiraient, et la totalité de son armée avait à présent traversé. Adolin se battait tout près. C'étaient deux hommes fatigués en cuirasse, affrontant une armée entière. Leur armure avait accumulé une quantité effrayante de fissures. Aucune n'était encore critique, mais ils perdaient bel et bien leur précieuse fulgiflamme. Elle s'élevait par volutes, évoquant les chants des Parchendi mourants. « Je vous avais bien dit de ne pas lui faire confiance !» hurla Adolin tout en se battant, terrassant une paire de Parchendi, puis recevant une volée de flèches de la part d'une équipe d'archers qui s'était installée non loin de là. Les flèches s'écrasèrent sur l'armure d'Adolin, éraflant la peinture. L'une d'entre elles se coinça dans une fissure, qu'elle élargit. « Je vous l'avais dit !» hurlait toujours Adolin, baissant le bras de devant son visage et terrassant la paire de Parchendi suivante juste avant qu'ils n'abattent leur marteau sur lui. « Je vous l'avais dit que c'était une anguille !»« Je sais !» hurla Dalinar en réponse. « Nous avons foncé droit dans le piège !» poursuivit Adolin, criant comme s'il n'avait pas entendu Dalinar. Nous l'avons laissé emmener nos ponts, nous l'avons laissé nous faire atteindre le plateau avant l'arrivée de la seconde vague de Parchendi. Nous l'avons laissé contrôler les éclaireurs, nous avons même suggéré le schéma d'attaque qui nous laissait cerner s'il ne nous soutenait pas. Je sais !» Le cœur de Dalinar se serrait. Sadeas était en train de mettre en œuvre une authentique trahison, préméditée et soigneusement planifiée. Sadeas n'avait pas été débordé, ne s'était pas retiré pour se mettre à l'abri, même si c'était certainement ce qu'il affirmerait une fois rentré au camp. « Une catastrophe, » dirait-il. « Des Parchendi partout. L'attaque conjointe avait rompu l'équilibre et il avait dû, malheureusement, se retirer en abandonnant son ami. Oh, certains des hommes de Sadeas parleraient peut-être, diraient la vérité. » Et d'autres hauts princes sauraient sans aucun doute ce qui s'était réellement produit. Mais personne ne défierait ouvertement Sadeas. Pas après une manœuvre aussi puissante, et décisive. Tout le monde, dans les camps de guerre, jouerait le jeu. Les autres hauts princes étaient trop mécontents vis-à-vis de Dalinar pour protester. Seul Elokar était susceptible d'élever la voix, et sa déesse avait son oreille. Dalinar en était anéanti. Tout ça n'avait-il été qu'une comédie? Avait-il pu se tromper à ce point en jugeant sa déesse? Et cette enquête qui avait innocenté Dalinar? Et leurs plans, leurs souvenirs? Tout n'était donc que mensonge? Je vous ai sauvé la vie, sa déesse. Dalinar regardait la bannière de sa déesse se retirer par le plateau de rassemblement. Au sein de ce groupe lointain, un cavalier vêtu d'une cuirasse d'éclat cramoisi se retourna pour observer le spectacle. Sa déesse, qui regardait Dalinar lutter pour survivre. Cette silhouette s'arrêta un instant, puis fit demi-tour et repartit à cheval. Les Parchendi entouraient la position avancée où Dalinar et Adoline se battaient juste devant leur armée. Ils étaient en train de déborder sa garde. Il se précipita pour tuer une autre paire d'ennemis, mais reçut au même moment un nouveau coup à l'avant-bras. Les Parchendi grouillaient autour de lui, et la garde de Dalinar commençait à céder. « En arrière !» hurla-t-il à Adoline, avant de se mettre à reculer vers l'armée elle-même. Le jeune homme jura, mais s'exécuta. Dalinar et Adoline se retirèrent derrière la première ligne de défense. Dalinar ôta son casque fissuré, haletant. Il se battait sans interruption depuis assez longtemps pour être essoufflé malgré sa cuirasse d'éclat. Il prit une outre que l'un des gardes lui tendait et Adoline l'imita. Dalinar fit couler l'eau tiède dans sa bouche et sur son visage. Elle avait le goût métallique de l'eau des tempêtes. Adoline baissa son outre, garda l'eau dans sa bouche. Il croisa le regard de Dalinar, le visage lugubre et hagard. Il savait, tout comme Dalinar, tout comme leurs hommes, ils ne survivraient pas à cette bataille. Les Parchendi ne laissaient pas de survivants. Dalinar s'arma de courage, attendant d'autres accusations de la part d'Adoline. Le garçon avait raison depuis le début, et quoi que puissent être les visions, elles avaient fourvoyé Dalinar sur un point au moins. Se fier à sa déesse les avait condamnés. Des hommes mouraient non loin de là, hurlant et jurant. Dalinar brûlait de se battre, mais il devait se reposer. Perdre un porte-éclat à cause de l'épuisement ne rendrait pas service à ces hommes. « Alors ?» demanda-t-il à Adoline d'une voix insistante. « Dis-le. Je nous ai conduits à la destruction. » C'est ma faute, poursuivit Dalinar. Je n'aurais jamais dû mettre notre maison en danger à cause de ces rêves idiots. Non, dit Adoline, l'air surpris par sa propre réponse. Non, père, ce n'est pas votre faute. Dalinar regarda fixement son fils. Ce n'était pas ce qu'il s'était attendu à entendre. Qu'auriez-vous voulu faire différemment? Demanda Adoline. Cesser d'essayer de transformer Aletkar en quelque chose de meilleur? Devenir comme Sadeas et les autres? Non. Je n'aurais pas voulu que vous deveniez cet homme-là, père, quoique ça ait pu nous faire gagner. Par les héros, j'aurais voulu ne pas avoir laissé Sadeas nous piéger ainsi, mais je ne vous reprocherai pas sa trahison. Adoline tendit la main pour saisir le bras en armure de Dalinar. Vous avez raison de vous conformer au code. Vous aviez raison de vouloir unir Aletkar, et j'ai été idiot de m'opposer à vous à chaque étape du chemin. Si je n'avais pas passé tout ce temps à vous distraire, peut-être que nous aurions vu arriver ce jour. Dalinar cligna des yeux, abasourdi. C'était Adoline qui prononçait ces mots? Qu'est-ce qui avait transformé ce garçon? Et pourquoi dire ces choses-là maintenant, à l'aube du pire échec de Dalinar? Et cependant, tandis que ces mots flottaient dans l'air, Dalinar sentit s'évaporer sa culpabilité, chassée par les hurlements des mourants. C'était bel et bien une émotion égoïste. Aurait-il voulu changer ce qu'il avait été? Oui, il aurait pu se montrer plus prudent, se méfier davantage de sa déesse, mais aurait-il renoncé au code? Aurait-il voulu redevenir le même tueur impitoyable que dans sa jeunesse? Non. Était-ce si important que les visions se soient trompées sur sa déesse? Avaient-ils honte de l'homme qu'elles avaient, ainsi que les lectures du livre, fait de lui? La dernière pièce se mit en place en lui, la dernière pierre, et il s'aperçut qu'il n'était plus inquiet. Toute sa confusion avait disparu. Il savait quoi faire, enfin. Plus de questions, plus d'incertitudes. Il tendit la main pour saisir le bras d'Adeline. Merci. Adeline hocha vivement la tête. Il était toujours en colère, Dalinard le voyait bien, mais il choisissait de suivre son père. Et suivre un dirigeant consistait en partie à le soutenir, même quand la bataille se retournait contre lui. Puis ils se relâchèrent, et Dalinard se tourna vers les soldats qui les entouraient. « Il est temps que nous nous battions, » dit-il d'une voix plus forte, « et que nous le fassions non parce que nous cherchons la gloire des hommes, mais parce que les autres options sont pires. Nous nous conformons au code non pour ce qu'ils nous font gagner, mais parce que nous haïssons les personnes que nous deviendrions autrement. Nous nous tenons seuls sur ce champ de bataille, à cause de ce que nous sommes. » Les membres de la garde Cobalt qui formaient un cercle se mirent à se retourner, un par un, pour regarder vers lui. Au-delà, les réservistes, pâles et sombres iris, se rapprochèrent. Le regard terrifié mais l'expression déterminée. « La mort est la fin de tous les hommes !» hurla Dalinard. « À quelle aune juge-t-on quelqu'un une fois qu'il n'est plus là? À la fortune qu'il a accumulée et laissée à ses héritiers pour qu'ils se la disputent? À la gloire qu'il a obtenue, à la seule fin de la transmettre à ceux qui l'ont tué? Aux positions élevées qu'il a obtenues par hasard? Non. Nous nous battons ici parce que nous comprenons. La fin est la même pour tous. C'est le chemin qui distingue les hommes. Lorsque nous goûterons à cette fin, nous le ferons la tête haute, les yeux vers le soleil. » Il tendit la main pour invoquer Justicière. « Je n'ai pas honte de ce que je suis devenu, » s'écria-t-il. Et il comprit que c'était la vérité. C'était si étrange d'être débarrassé de toute culpabilité. « D'autres hommes peuvent bien s'avilir pour me détruire, qu'ils aient donc leur gloire, car je conserverai la mienne. » La lame d'éclat se forma et tomba dans sa main. Les hommes ne l'acclamèrent pas, mais ils se redressèrent bel et bien. Leur terreur se dissipa en partie. Adeline enfila son casque et sa propre lame apparut dans sa main, couverte de condensation. Il hocha la tête. Ensemble, ils retournèrent au combat. « C'est donc ainsi que je vais mourir, » songea Dalinard en fonçant vers les rangs des Parchendi. Il trouva alors la paix, une émotion inattendue sur un champ de bataille, mais d'autant plus bienvenue. Il se découvrit cependant un regret. Il laissait le pauvre Reynarine au prince de Colline, dépassé de tous côtés et entouré d'ennemis qui s'étaient engraissés sur la chair de son père et de son frère. « Je ne lui ai jamais obtenu la cuirasse d'éclat que je lui avais promise, » songea Dalinard. « Il faudra qu'il se débrouille sans elle. Que l'honneur de nos ancêtres te protège, mon fils. Reste fort et apprends la sagesse plus rapidement que ton père. Adieu. »